À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chanson,
gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Dominique, bonsoir Laurent, bonsoir Liliane, puisque nous avons une invitée aujourd'hui.
Bonsoir.
Pour cette avant-dernière émission de la saison, puisqu'après on va avoir des congés bien mérités. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité en Italie. Alors l'actualité en Italie, bon, ça tourne beaucoup autour de l'actualité politique. Alors, il n'y a pas d'élection présidentielle, mais l'actualité politique est toujours très riche. Alors, vous savez que l'Italie a comme président M. Monti, qui est un président, un gouvernement technique, on va dire, de technicien, depuis plusieurs mois, que M. Monti est chargé d'une mission, enfin, il s'est chargé lui-même d'une mission, mais tout ça en accord avec l'Union européenne, et qu'il a pris déjà pas mal de décisions, qui sont plus ou moins bien acceptées, d'ailleurs, bien sûr. Et là, il vient d'intervenir à Arezzo devant un public de jeunes, alors à qui il a rappelé toutes les grandes lignes de sa politique. Il a soutenu le pourquoi de ses décisions. Et puis, il a essayé de leur donner un peu le moral en disant que certes, l'Italie a des tensions, certes, ce n'est pas facile, mais qu'il faut être unis devant cette crise, qu'il ne faut pas se rendre. Il a pris... cette fameuse phrase qu'on dit toujours dans des cas comme ça, c'est-à-dire que les moments difficiles amènent des moments meilleurs et c'est là qu'on est plus fort. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais enfin bon, c'est ce qu'on dit. Et il dit qu'au niveau de l'Europe, l'Italie doit jouer son rôle et avoir du poids. Il dit aussi que la conception d'Europe même est sans doute l'idée la plus importante du siècle. Enfin voilà, il leur a parlé de tas de choses et puis des sujets qu'on a entendus nous pendant la campagne électorale en France. Et voilà, donc je rappelle les grandes lignes de son programme. C'est quoi? C'est l'austérité, c'est la rigueur budgétaire. C'est chercher des rentrées fiscales, combattre l'évasion fiscale, et la fraude fiscale, même, on peut dire. Mmh. Et puis parallèlement, remonter la dette du pays, c'est-à-dire essayer de l'éponger. Mais relancer aussi la croissance pour que l'Italie retrouve un petit peu son rang, on va dire. Et voilà, alors il y a des réactions positives, des réactions négatives. Et il y a surtout des réactions... qui font l'unanimité de façon négative, si j'ose dire, c'est une de ces mesures qui... Enfin, on va dire une mesure qui est impopulaire, c'est la mesure sur l'IMU. Alors l'IMU, c'est quoi? C'est l'imposta municipale unica, c'est-à-dire un impôt sur le foncier. Mmh. On ne va pas rentrer dans les détails de cette réforme, mais c'est taxer les biens immobiliers de l'Église, notamment. Bon, il est un petit peu revenu dessus, notamment sur les collèges, sur les écoles religieuses, mais aussi pour tout Italien sur les résidences principales, puisqu'il n'y avait pas de taxe foncière sur les résidences principales. Alors, c'est une mesure qui devrait rapporter 21 milliards d'euros, je crois. Mais, alors bizarrement, là, il a une levée de bouclier, mais tout le monde. De tous les partis. Alors, le parti qui était au pouvoir avant lui, c'est-à-dire le parti de Berlusconi, bon, ne condamne pas complètement cette mesure, mais il est plutôt... il fait profil bas. Le parti de gauche socialiste, on va dire, si on avait à comparer, est un petit peu dans la même position, mais sans être complètement ni d'accord ni pas d'accord. Mais il ne se prononce pas trop, uniquement parce qu'il se demande si ce gouvernement, ce gouvernement est amené à durer, mais pas de façon longue. Et il ne voudrait pas, au niveau élection, derrière, qu'on leur reproche d'avoir été dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Visiblement, ils font profil bas tous les deux. Et tout ça s'est manifesté, ce désaccord, ben, dans la rue déjà, et puis lors des municipales, parce que l'Italie vient de voter, il y a deux tours, hein, c'est-à-dire qu'il y aura un deuxième tour. Les municipales sont tournantes, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a voté l'an dernier, une autre partie qui a voté là au mois de mai, et qui votera pour le deuxième tour le 20 et le 21 mai. Et comme par hasard, ben les partis traditionnels, alors le parti démocratique, enfin le parti de gauche que j'assimile moi au socialisme, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est ressemblant, a eu des votes qui correspondent à peu près à ce qu'ils ont en général. Le parti de le PDL de Berlusconi, le parti de la liberté, lui a beaucoup baissé. Et par contre, un parti qui a énormément baissé, c'est la Ligue du Nord. Qui a pris ce qu'on appelle vulgairement une calotte. Là. Mais bon, il venait d'avoir de gros soucis au niveau de du dirigeant et de l'intégrité de ses dirigeants. Mais les partis qui pointent, et surtout le parti qui pointe, c'est le parti des Cinque Stelle, des 5 étoiles, qui est le parti de Beppe Grillo. Alors Beppe Grillo, au départ, c'est un comédien, c'est même un acteur comique. Certains disent que c'est le Coluche italien dans sa démarche politique. Là aussi, on n'est plus à la même époque, c'est plus tout à fait la même chose. Mais c'est un comique de Gênes et qui, depuis plusieurs années, fait des tas de meetings en Italie sur les places. Alors, c'est son leitmotiv, c'est être contre la classe politique en général. Bon, il a été énormément contre Berlusconi. C'est contre la classe politique en général en disant qu'ils sont tous, de toute façon, il les met tous dans le même sac, si je me tire, en disant qu'ils sont sinon corrompus, du moins on met les copains. Enfin bon, et voilà le leitmotiv de son parti. Et là, ils ont eu énormément de voix au municipal. Alors, les municipales, les Italiens votent beaucoup en général aux municipales. Les dernières avaient eu 74% de vote. Là, il y a eu 67%, donc il y a quand même une érosion. Mais ce parti est en passe. Il a eu une petite mairie, d'ailleurs, de Sarrego en Vénétie. Mais il est en passe d'avoir peut-être la mairie de Parme. Parme, c'est quand même pas une petite ville. Et donc, par l'intermédiaire de M. Pizzarotti, qui est son représentant à Parme, il pourrait effectivement... puisqu'ils sont en ballotage favorable, avoir la mairie de Parme. Bon, c'est pas encore certain, mais en tous les cas, c'est un parti qui pousse, alors qui suscite beaucoup de réactions, parce que, a priori, c'est pas un politique, hein, ce brave homme, mais il semblerait qu'il s'entoure quand même de gens qui connaissent le monde politique. Alors bon. Et puis, il y a eu aussi une manifestation à Rome, là, ce dernier week-end, où les communistes italiens, alors tous les partis tournant autour du Parti communiste ou de la gauche italienne, en dehors du Parti démocratique, qui est plus, donc je disais, le Parti socialiste, donc tous ces gens ont défilé ensemble pour dire il faut qu'on s'unisse parce qu'on représente entre nous 20%. Ça vous rappelle peut-être quelque chose au niveau du Front de gauche en France. C'est un petit peu dans la même idée. Hein. Et alors là, il y a Di Pietro. Di Pietro, c'est l'Italie des valeurs. Di Pietro, c'est l'ex-juge. Là aussi, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Le juge Di Pietro qui avait notamment été célèbre pour l'opération Main Propre en Italie. Il y a aussi des plus petits partis. Et il y a aussi le parti de la gauche écologique qui est celle de Nicky Vendola, il est assez jeune, il a une quarantaine d'années, qui est un politique qui monte en Italie. Alors lui, il a beaucoup monté via des réseaux Internet. Il est aussi élu en région des Pouilles. Et c'est un personnage, lui aussi, qui avait beaucoup combattu Berlusconi. Et puis bon, qui est lui, par contre, politique. Il n'est pas comme Beppe Grillo, c'est un gars qui a fait une carrière politique depuis longtemps. Et qui lui aussi fait partie de ce mouvement. Alors dans ce mouvement d'union qui n'est que théorique pour le moment, il y a aussi les Notav. Alors c'est quoi le Notav? C'est non TGV Lyon-Turin. Donc c'est une association. Mais enfin bon, tout ça fait que on est dans l'Italie en ce moment, comme toujours, bouge beaucoup. On ne sait pas trop où tout ça va nous conduire. Bon, on ne sait pas ce que le gouvernement Monti va donner. Alors, pour connaître beaucoup de personnes en Italie, à la fois, ils disent oui, il faut combattre la fraude fiscale, il faut ceci, il faut ça. Mais d'un autre côté, il faut s'en donner les moyens. Puis il ne faut pas que se serrer la ceinture arrive. Il faut que se serrer la ceinture soit dans un but d'espoir, mais pas uniquement pour avoir de moins en moins de moyens, justement. Bon, alors la force, la faiblesse de l'Italie, on la connaît, hein, c'est sa démographie, c'est les différences nord-sud, c'est au niveau économique, je parle, hein, c'est le travail au noir, même si ils sont sans doute loin d'être le seul pays d'Europe qui est comme ça. Et puis l'Italie, elle a des forces aussi, c'est-à-dire même si elle est très endettée, elle a une balance commerciale qui est toujours excédentaire. C'est-à-dire qu'elle vend plus qu'elle n'achète à l'étranger. Elle a toujours quand même un outil industriel, donc ça peut être un atout. Puis il y a des forces, il y a une force des régions aussi. Et puis il y a le caractère italien, peut-être tout simplement, qui arrive toujours à se remonter de moments difficiles. Espérons qu'encore une fois, ça soit vrai. Au niveau chômage, bon, le taux de chômage d'Italie est à peu près équivalent à celui de la France. Donc c'est trop, c'est pas encore désastreux, mais c'est déjà trop. Mais alors voilà, donc on va suivre tout ça. Liliane.
Est-ce qu'on se fait déjà à peu près une idée de la répartition justement au niveau pourcentage de chacun des partis
pour les municipales, oui.
Est-ce qu'on a une idée, un semblant d'idée?
On ne sait pas trop, parce qu'avec ces partis que certains appellent populistes, dont on ne sait pas trop. Si les gens vont... Alors, en premier tour, ça peut être quelque chose, mais si au deuxième tour, ils vont aller dans ce sens-là, ou s'ils vont revenir sur des partis plus traditionnels, s'il y a effectivement des alliances, on ne sait pas trop. C'est très difficile à dire. Puis c'est dans une époque où il y a tellement d'inconnus, mais même l'Europe. L'Europe, il y a énormément d'inconnus. Parce qu'on voit des mouvements un peu dans tous les pays qui sont loin des mouvements. Il y a les indignés en Espagne. Loin des mouvements politiques traditionnels. Donc, on ne sait pas trop ce que l'Europe elle-même va donner. Ce qui était vrai il y a 2 mois n'a plus l'air tout à fait vrai. Même Angela Merkel en Allemagne est quand même très contestée. Donc, je ne sais pas. Donc, on n'a pas trop... Alors, la chose de sûre, c'est que la Ligue du Nord, là, vraiment, a chuté de façon importante. Le parti de Berlusconi, alors, c'est sans doute lié à sa chute à lui. Après, on ne sait pas trop... C'est difficile à dire, hein, difficile à prévoir, à suivre. On va écouter un premier morceau. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup entendre des musiciens du Piémont. Vous allez peut-être bientôt comprendre pourquoi. Et là, on va écouter le groupe Ludalfin qui va chanter en occitan, parce qu'effectivement, le Piémont a des vallées occitanes, mais où on parle occitan, où on chante en occitan. Et j'ai choisi ce titre parce que c'est une chanson qui est très chanté dans les vallées piémontaises, mais qui est aussi une chanson qui est connue en Orisère. Donc c'est un petit peu pour faire plaisir à notre invité. Alors c'est la chanson qui en parle d'un bossu qui acceptait de se faire couper sa bosse pour sa belle, puis qui après l'a regretté. Et donc c'est Margoton, la jeune femme s'appelle Margoton en Piémont, et elle s'appelle en France, c'est la Marion sous son pommier, en France, dans le patois du Nord-Isère. Donc c'est la même chanson, ce sont les mêmes personnages, exactement le même texte. Alors on va l'écouter là par le groupe piémontais Ludalfin.
Okay.
Voilà, un chant traditionnel revisité, musicalement revisité. Donc le leader du groupe qui chante là, c'est Sergio Berardo, c'est un groupe qui est à voir en plus, parce qu'à écouter, c'est intéressant, et à voir, c'est assez exceptionnel. Alors la chanson, hein, c'est le titre, c'est Le Bossu, dont Margoton prenait le frais sous un pommier, et un bossu est passé, et il la regardait, évidemment, et... « Oh, vilain bossu, qu'est-ce que tu as à me regarder ?»« Eh bien, Margoton, si tu veux, tu seras ma maîtresse. » Alors, elle lui répond que ben, « Si tu veux que je sois ta maîtresse, il faut que ta bosse doit disparaître. » Alors, évidemment, il a pris un grand couteau. Il s'est coupé la bosse et puis il s'est mis en danger puisqu'il saignait énormément. Alors, il l'a sans doute regretté. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas trop. Dans certaines fins de texte, on dit que oui. Et par contre, la morale, si on peut dire, c'est que la jeune fille a eu 3 enfants et tous les 3 avait une bosse.
Ah, oui. Ah, voilà. Ah, il y a quand même...
Voilà, alors Norisère et Piment, cela, donc, je le disais, doit faire plaisir à Liliane, qui est notre invitée. Donc Liliane, qui nous vient de
la Verpillière,
Liliane Binet, elle va nous parler d'abord pourquoi elle est là, d'un jumelage avec une commune du Piémont.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes depuis 2010, nous sommes jumelés avec la ville de Vérolingo, qui est située sur la rive gauche du Pô, dans le Piémont. C'est une cité d'à peu près 5 300 habitants environ. Mmh. Et elle est constituée, donc, le bourg, plus 7 hameaux qui sont quand même assez dispersés. C'est une ville assez agréable, c'est-à-dire que quand on rentre dans le bourg, quand on rentre dans cette ville, de part et d'autre, de chaque côté, vous avez vraiment des arcades. Et tous les magasins sont sous ces arcades et c'est vraiment fantastique. Le soir, on est bien sous ces arcades, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il fasse trop chaud ou autre, les gens vraiment aiment bien être dans Vérolingo et se promener.
C'est un lieu de rencontre.
Et c'est vrai que c'est très difficile. Nous y sommes allés en septembre et le soir, même très très tard, on a peine à vouloir rentrer parce qu'on est vraiment très bien dans cette ville. Elle est aussi particulière, c'est une ville évidemment où il y a beaucoup de chrétiens. Donc il y a trois églises en fait dans cette ville, dont le sanctuaire de la Madone Nina qui est absolument magnifique. Mmh. Voilà. Les habitants de Vérolingo, nous les appelons les Vérolanghesi.
Les Vérolanghesi.
Donc, cette ville est en fait traversée aussi par le canal de Cavour. Mmh. Et c'est une cité qui est une cité essentiellement agricole, en quelque sorte, puisqu'il y a effectivement la culture du riz.
Et oui, c'est pas loin de Vercelles.
Absolument. Mmh. Et il y a aussi la culture du maïs. Mmh. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, là, nous avons vu le bord du Pô, les arbres et tout. Et bizarrement, si vous voulez, lorsqu'on est à la Verpillière, le long de la Bourbe, on a pratiquement... Enfin,
la même impression.
Sans en penser au Pô, mais le long de la Bourbe, on a vraiment la même sensation. On a l'impression d'un déjà-vu. Mmh. Et c'est vrai qu'on a fait une super balade tous à vélo, c'était très agréable et on avait l'impression d'être déjà chez nous et d'être tout à fait à notre aise.
Et comment est né ce jumelage ? C'est par des contacts
alors, ce jumelage,
particuliers
nous, alors ou... nous avions envie effectivement de nous jumeler. Nous sommes déjà jumelés avec la ville de Tecumseh aux États-Unis. C'était une expérience très intéressante. Mais au fil du temps, en fait, les voyages étant quand même...
À la distance
fait que, si vous voulez, les déplacements se sont faits de plus en plus rares, évidemment. Alors, nous avons contacté les gens de la Verpillière et nous leur avons posé la question, quel est le pays avec lequel vous souhaiteriez être jumelé. Et effectivement, c'est l'Italie, évidemment, qui est arrivée. On a plus ou moins des... On a la proximité quand même de l'Italie, donc on a des affinités. On a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés sur la Verpillière dans les années 60 à peu près, parce qu'ils avaient vraiment des problèmes au niveau du travail, donc ils sont venus chez nous. Et donc de ce fait, si vous voulez, ça s'est fait d'emblée. On avait cette espèce d'envie de connaître l'Italie. On a l'impression qu'on est en famille, en quelque sorte. Voilà. Donc on a pris contact avec diverses cités. Et puis... On a essayé de trouver une cité qui corresponde à peu près à la nôtre.
Au niveau taille,
parce qu'on avait fait une expérience un petit peu mal. On avait tenté quelque chose, mais en fait, c'était trop grand, beaucoup trop grand pour nous. Je pense que ça aurait été davantage avec la ville de Bourgoin, à la limite.
C'est pas simple de trouver
Et puis au niveau de l'état d'esprit aussi. Si vous voulez, c'est une ville agricole, mais qui est très active, tout ça. Donc, nous, ça correspond un petit peu à notre tempérament. Donc, si vous voulez, il y a eu tout de suite les affinités. Il n'y a pas eu de problème de contact. Et donc, nous sommes rendus chez eux en septembre 2010. Donc là, nous avons fait les premières démarches. Et puis, nous y sommes retournés l'année dernière pour conclure. Nous y sommes retournés à plusieurs reprises. Mais l'an dernier, à la Verpillière, au mois de juin, il y a eu donc aussi la signature de la charte donc à la Verpillière du jumelage. Voilà.
D'accord. Et il commence à y avoir des échanges au niveau associatif?
Absolument. Alors, nous avons eu les premiers échanges associatifs. Nous les avons eus tout d'abord avec notre fanfare. Hein, puisque, donc là, il n'y a pas eu de soucis non plus. Nous avons une équipe de rugbyman à Verpillière. Donc là, aucun souci entre eux. Là, les rugbyman
se comprennent.
Voilà, y a pas de, on parle tous troisième mi-temps sans problème. Et puis, nous avons aussi eu d'autres contacts avec les boulistes aussi. Nous avions. Nous sommes déplacés avec ces trois. Et là, maintenant, petit à petit, on commence à avoir des contacts avec les établissements scolaires. Donc, ça, c'est vraiment le souhait, en fait, de notre comité du jumelage, c'est de finalement de permettre.
D'axer sur la jeunesse aussi.
D'axer ça tout à fait sur la jeunesse, de façon à avoir des contacts tout à fait fraternels. Et donc, nous avons commencé effectivement avec les maristes de la Verpillière doivent y aller ou sont sur peut-être en ce moment. Et nous avons aussi d'autres vues avec les écoles publiques également. Donc, vraiment, c'est dans un souci de. Là, nous avons fait dernièrement une autre rencontre un petit peu à la frontière. Nous avons fait une rencontre de ski entre donc, les deux clubs de ski. Et puis, nous avons sans doute aussi une rencontre qui va se faire en ce qui concerne le vélo-club. Donc, il y a beaucoup de choses.
Oui, donc, en peu de temps, vous avez quand même déjà bien avancé. Hein.
Oui, et nous avons ce qu'il y a, c'est que le fait que ce soit quand même assez près fait que... Ça facilite beaucoup, beaucoup les contacts.
Faire un saut,
voilà, on y est souvent. Ils sont souvent chez nous. Et donc, de ce fait, on peut entreprendre beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, pas loin de Verolengo, à Vercelli, on a un des derniers marionnettistes ambulants d'Italie, Bruno Niemen, qui est un gars extraordinaire. Et il y a dans cette région la marionnette, le Gianduia, qui est né à la même époque que notre guignol lyonnais. Et on travaille là-dessus, d'ailleurs, sur des rapprochements entre eux. Et puis, Dominique aussi a des échanges avec le Piémont au niveau du lycée. Vous êtes en train de travailler là-dessus.
Oui, on attend des élèves qui vont venir au mois de juin, effectivement. Une ville de Fossano.
Fossano, qui est vers Cuneo, dans l'autre partie du Piémont. Et Turin, pas Turin même, mais le Pô, on disait que... Liliane parlait des rizières. L'Italie est un gros producteur de riz, à l'échelon européen, bien sûr. Rien à voir avec l'Asie, mais à l'échelon européen. Et je crois qu'elle a le double de l'ensemble des autres pays européens réunis en production de riz. Donc tout le Pô, la région, dont vous parlez, aussi vers le delta du Pô et aussi vers en Sardaigne. Enfin, il y a beaucoup de riz en Piémont. Et puisque vous parliez du Pô, l'année prochaine, il y a un festival chaque année où on va souvent à Nice, qui est le festival de musique et chant traditionnel populaire de Rovigo, qui est en Vénétie, au bord du delta du Pô, justement. Et l'année prochaine, le thème du festival sera le Pô et le Rhône. On parlera sans doute du Piémont aussi, et bien sûr de notre région.
Ça va être un sujet à développer qui va être très intéressant.
Bien sûr. Voilà, bon, ben, on va peut-être faire une petite pause musicale, puis on va continuer avec Liliane. Alors, on parlait de Transfrontières avec Liliane. On va écouter un groupe, là, un petit peu, j'allais dire, occasionnel. C'est une rencontre entre Maurizio Martinotti, qui est un chanteur du Piémont, et Renat Sett, qui est un chanteur provençal, parce que ces deux musiciens-chanteurs se sont aperçus que d'un côté et de l'autre du Piémont, donc côté la plus Provence, on va dire, il y avait les mêmes chansons, les mêmes traditions, un peu ce que vous disiez avec la Verpillière, on se sent chez nous. Et ils ont puisé dans ce patrimoine régional et ils ont fait pendant toute une année des concerts ensemble, où les uns chantaient en piémontais et en occitan piémontais, les autres en occitan, puis croisaient leurs chansons. C'est assez intéressant. Donc on va entendre un morceau ou deux versions de la même chanson, l'une en occitan et l'autre, par contre, en piémontais, non pas en occitan du Piémont, du même chant. Donc c'est une adaptation d'un texte traditionnel dont on parlera après. Donc la chanson s'appelle « L'escrivette et Moru Sarrazin » et donc par Maurizio Martinotti et Renat Sett.
Thank you. Le mari d'un flour en solido, l'enfa de la lila. La flour de quel pays, la didi, la flour de quel pays. La mari d'un tanguin orido, l'enfa de la lila. C'est saupin cavesti, la didi, c'est saupin cavesti. Son mari va y en guerre orido, l'enfa de la lila. Per la lei s'agrandi, la didi, per la lei s'agrandi. Au bout de sept années, yoridou, l'enfa de la lida. Estourna au pays, la didi, estourna au pays. Sa maille soit à l'est, yoridou, l'enfa de la lida. Respondez plus ici, la didi, respondez plus ici. Les mots l'enrobent, yoridou, l'enfa de la lida. Les mots sarrasin, la didi, les mots sarrasin.
Ho prensi la mia spadina, cula dal pumel dura. Mi vei andà, cerca Fiorenza, sai es ben da morì per stra. Quand le stai, tmita la strada, na lavandera la rescontra. Cosa vi dico, lavandera, chi cale colpa la si lì. Palazzi e dal moro sarasi, alghe del Tarna Fiorenza, clesetani caleri, e ottuntun pica la porta, Fiorenza bela, vernia d'apri, o vernia d'apri Fiorenza, che mi sono dal tuo paese. Picchia la porta, Fiorenza bella, vernia d'apri, o vernia d'apri Fiorenza, che mi son al tuo marì. La duverti te le porte, e poi ancora il sopporti, e sale saltati in braccio, che salta in braccio al suo marì.
Son sulo pont d'armo di du, l'enfa de la lira. L'humour en viveni, la lidi, l'humour en viveni. C'est en la vie au garda d'olidou, l'enfa de la lira. Per la duna mon fil, la lidi, per la duna mon fil.
Voilà, alors les thèmes sont toujours un peu les mêmes. Hein. Oui. C'est un jeune homme qui est retour de la guerre, et puis il découvre que son épouse a été enlevée. Là, dans la chanson, c'est par les Sarrasins. Et puis, par sa recherche, évidemment, il la trouve et il la délivre. Voilà. Alors, Liliane, suite à ce jumelage, eh bien, vous avez eu, avec la commune, le service culturel, l'idée d'une exposition.
Oui, tout à fait. Alors, c'est la commission patrimoine qui a été chargée donc, de cette exposition. Il faut dire que nous avons travaillé d'arrache-pied, mais avec beaucoup de cœur, je crois. Et on a effectivement aussi été aidés. On a eu des bons contacts grâce notamment à l'INIS, qui nous a vraiment donné des points de contact très intéressants. Donc on a fait un travail, vous savez, comme un petit pousset, vous savez, on a procédé par
petit
étapes.
Petit à petit.
Et on a obtenu vraiment, je pense, de bons résultats.
Elle est très belle, votre exposition.
Oui, alors ça fait d'autant plus plaisir que c'est vrai que les gens qui sont venus sont souvent des gens très, très qualifiés, et d'entendre des compliments venant de leur part, j'avoue que, sans modestie aucune, nous sommes vraiment ravis. Alors cette exposition, elle traite de plusieurs sujets, mais tous basés évidemment sur l'Italie. On aborde tout d'abord la ville de Vérolengo. Donc il y a eu un travail de fond fait sur cette ville de Vérolengo, sur son habitat, sur son passé, sur toute son histoire, sur la partie aussi gastronomie. Et puis ensuite, petit à petit, quand on aborde la salle suivante, on a l'impression qu'on va rentrer dans une salle de cinéma, puisque nous avons voulu donner une ambiance de cinéma, à savoir que nous avons mis de très belles affiches du cinéma italien sur un fond qui est rouge, oui. Et alors, cet effet fait qu'on a l'impression qu'on rentre dans une salle de cinéma, ce qui n'est pas du tout...
Tout à fait vrai.
On a voulu donner cette sensation. Et là-dessus, vraiment, toutes les affiches que nous avons posées sont vraiment mises en valeur. Elles sont vraiment très belles. Là, nous avons abordé effectivement la partie historique, c'est-à-dire l'Italie, le Piémont, la réunification, enfin...
L'unité italienne,
donc nous l'avons abordée et un petit peu développée aussi, pas trop parce que l'espace est quand même réduit. Et puis nous avons aussi fait un travail, un reportage en quelque sorte, mais ce reportage ne s'arrêtera pas. Nous avons fait un reportage sur l'arrivée des Italiens, il y a justement ce que je vous disais dans les années 60 à la Verpillière. Moi je les ai tous vus arriver. Et on a vu arriver donc ces personnes qui étaient à la recherche de travail, qui étaient seules, et qui, petit à petit, sont venues après avec leurs épouses ou se sont mariées. Enfin, toujours est-il qu'ils se sont établis à la Verpillière, ils n'ont plus quitté la Verpillière. Ils ont eu tous des situations, beaucoup étaient maçons. Hein. Mmh. Donc, effectivement, ils ont développé leur propre entreprise et ils ont su se constituer vraiment une belle carrière, et ils sont à la Verpillière reconnus quand même pour le travail qu'ils ont fourni et puis pour leur intégration parfaite à la Verpillière. Mmh. Hein, il y a vraiment et c'est vraiment pour nous c'est un exemple, c'est vraiment, on voulait mettre justement en valeur,
les mettre en avant.
Mmh. Ils ne sont pas les seuls, hein, parce que nous n'avons pas eu le temps de
bien sûr on a interviewé tout le monde,
si vous voulez notre idée, on va essayer de se faire un cahier, et au fil du temps, de faire justement le reportage. Comment sont-ils venus? Pourquoi sont-ils venus? Mmh. À quel moment? Certains sont venus, ils ont travaillé sur des chantiers, notamment sur les rails, certains au départ. Donc, d'autres sont partis même en Corse. Il y avait du travail en Corse. Après, ils sont revenus donc dans la France. Et c'est vraiment, ils ont fait un travail de titan, quelquefois logés dans des conditions absolument difficiles. Mmh. Il y a une famille, ils étaient à quatre dans un hôtel, ils ont vécu pendant deux ans dans une chambre d'hôtel. Et vraiment, maintenant, quand on voit le chemin qu'ils ont parcouru, c'est assez étonnant. Avec beaucoup de force, avec beaucoup de caractère, beaucoup d'envie. Et vraiment, c'est un bel exemple. Donc, on voulait leur rendre hommage.
Mais c'est réussi parce que l'ensemble est vraiment très intéressant, avec des thèmes complètement différents, effectivement. Et puis, il y a des peintures aussi, il y a des références à la région. Non, c'est très, très intéressant. Ouais. Et elle dure jusqu'à...
Alors, elle dure jusqu'au 31 mai,
et on peut la visiter tous les jours.
Alors, vous pouvez la visiter, en fait, si vous voulez, le temps, enfin, les horaires normaux, c'est le mardi de 14h à 17h30, mais il était évident que si on a l'intention de venir, il suffit de nous téléphoner et à ce moment-là, on peut entrevoir une visite sur mesure.
D'accord.
C'est ce qu'on est en train actuellement de faire pour certains groupes.
Et là, avec les fêtes de l'Ascension,
il y aura quelqu'un.
Le vendredi,
voilà,
par exemple,
il y aura quelqu'un.
Et le samedi, c'est ouvert aussi.
Le samedi aussi, donc le samedi après-midi. Mais si on a besoin d'ouvrir le matin,
il faut vous téléphoner.
Voilà, il faut nous téléphoner. Et là,
au centre culturel,
vous pourrez nous téléphoner.
D'accord.
Et donc, il n'y a aucun souci, vous aurez
une
visite.
Le numéro, on le trouve sur internet.
Vous avez alors le numéro, c'est le 04 26 38 40 26.
D'accord.
Voilà, 04 26 38 40 26.
Mais belle initiative. Non, franchement, c'est une belle exposition pour l'avoir vue. C'est une très belle exposition. Mais on va écouter, le Piémont est aussi le lieu de la voiture. Et notamment, vous rappelez cette petite voiture
Topolino.
Et on va entendre, vous allez reconnaître le chanteur, il est connu celui-là.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va, all'auto che comodità. Sulla Topolino amaranto vai, siedimi accanto che adesso si va, se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. e stringiti la bionda, si sento la fionda, abbozzo un sorriso, ah, che fifa che c'è in lei, ma si fa topolino amaranto, si va che un incanto nel quarto sei. Paesaggio che non va, è appena finito il temporale, sei case su 10 sono andate giù, è meglio che tu apri la capota e con i tuoi occhioni guardi in su, bevi di sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla topolino amaranto dai, siediti accanto che adesso si va. Se ne lascia sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, l'anima non è. Si sente una fionda, abbozza un sorriso, che fifa che c'è in lei, ma sulla topolino amaranto, dai siedimi accanto, guarda se.
Voilà, alors vous avez bien sûr reconnu Paolo Conte, on avait l'impression d'être en voiture avec lui, sur le Topolino Amaranto. Deux choses à rajouter peut-être, Liliane ?
Ah oui, alors je voulais rajouter une chose, parce que vous allez retrouver d'ici peu donc, un personnage que vous aviez perdu, hein, qui nous a quittés, voilà,
qui vous a quitté,
voilà.
C'est comme l'histoire tout
alors,
à l'heure.
Alors ne pleurez pas, elle revient.
Notre belle Libera.
Voilà, il s'agit de cette belle Libera qui nous a été aimablement prêtée pour notre exposition, qui est vraiment magnifique et qui finalement va très bien chez nous, entre parenthèses.
Elle va bien, mais peut-être qu'elle y retournera.
Elle y retournera. Donc, le travail de l'équipe, hein, les travaux remarquables de Bruno Pilloy,
hein, Monique Despréaux,
Jean-François Pornet aussi.
Qui ont conçu cette statue avec deux thèmes principaux qui les ont guidés, c'est-à-dire l'unité italienne dont vous parliez, et puis l'émigration italienne dans le monde avec une broderie de tous les pays.
C'est très très beau, oui.
Non, c'est intéressant. Voilà. Elle est donc en bas de votre...
Elle est à l'entrée de notre...
La maison Girier, qui est un bâtiment magnifique.
Très bien, hein, tout à fait. Là, je pense que le cadre est vraiment... je trouve que ça va bien l'Italie, je trouve, ce cadre.
Tout à fait. Et elle sera donc de retour chez nous le 6 juin, mais on en parlera tout à l'heure, parce que pour son retour, on va quand même... On est tellement content de la retrouver, content de... qu'elle ait fait le trajet jusqu'à la Verpillière.
Elle s'est fait admirer.
Voilà. Et puis, je crois que vous aviez eu quand même le jour de l'inauguration, aussi, une petite animation musicale.
Je voulais donc remercier quand même toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette... donc, je voudrais d'abord remercier M. Jean Guichard, hein, sans qui, c'est vrai que... Il m'a beaucoup guidée, Monsieur Alain Pongan, et puis Bruno Prillois, Jean-François Pornet, Jean Bicard, Monique Despréaux aussi, qui nous a prêté
quelques tableaux
magnifiques, dont l'un, c'est sur le thème de Montal, le poète Montal, Parole. Et puis nous avons aussi un très beau tableau qui représente les 20 provinces de l'Italie.
Qui a servi de couverture un autre cahier sur l'unité italienne.
Tout à fait, qui est absolument magnifique. Chantal Guillot, la chorale Ephemera, qui est venue vraiment gentiment faire une belle prestation chez nous. Merci à Chantal Galea. Les établissements Spitalieri qui, eux, nous ont prêté une petite Topolino.
C'est un peu pour ça que j'avais choisi cette chanson.
C'était bien, oui, elle a été admirable. Et puis, nous avons aussi M. Henri Dutailly qui, lui, nous a prêté une Vespa avec Sidecar.
Très bien.
Voilà. Et puis, nos amis italiens, donc Jacqueline Mosca, Gabriel, et puis M. le maire Luigi Borazio qui va, je pense, qu'il ne saurait tarder à venir nous rendre visite. Voilà, d'accord. C'est ça. Et puis j'ai d'autres personnes donc j'ai oublié qui effectivement sont rendues en Italie, qui ont fait beaucoup de travail aussi. C'est la chorale La Verpillière, c'est la chorale La Coda.
Voilà,
je crois que j'ai.
C'est un bel exemple de travail en collaboration.
Ah, tout à fait, oui.
Tout le monde a participé et avec plaisir.
Avec plaisir, oui. On était un petit peu stressés, on était tendus, mais bon, on est satisfaits et puis on a fait un bon travail. Et l'essentiel, c'est d'en faire participer le maximum de personnes. C'est pour ça que je vous y convie.
Mais sans problème. Et allez voir cette exposition. Franchement, allez la voir. Et puis Liliane, vous êtes la bienvenue dans les studios de Couleur FM quand vous voulez.
Merci.
Alors Dominique, on a parlé de Paolo Conte et Paolo Conte d'Asti,
Giorgio Faletti.
Voilà, dont tu vas nous parler.
J'allais le dire. Donc je vais parler aujourd'hui de Appunti di un venditore e di donne, qui est paru en 2010 chez Baldini Castoldi d'Alai et qui vient de paraître en France sous le titre « Seuls les innocents n'ont pas d'alibi » aux éditions Robert Laffont, paru donc en avril 2012. C'est tout récent, c'est un roman policier de 357 pages. La traduction a été assurée par Marianne Faurobert, qui a écrit un livre sur l'émigration italienne et l'intégration dans trois régions françaises. Je crois que c'est une thèse. Elle a également écrit « Exil, émigration italien et espagnol en France, 1938-1946 ». Il semblerait...
Périodes donc précises.
Oui, tout à fait. Il semblerait que ce soit sa première traduction. Alors l'auteur, effectivement, Giorgio Faletti, est né à Asti en 1950.
C'est une belle année. C'est une belle année.
Excellente, je crois, m'a-t-on dit. C'est un acteur, écrivain, musicien, parolier, compositeur. Apparemment, il a beaucoup de talent.
Il chante ses propres chansons.
Il a enregistré des disques. Il commence par se produire dans un cabaret à Milan, puis devient acteur pour la télévision dans de nombreuses productions. En 1990, sort son deuxième disque dans lequel la chanson « Ouh Lula » fut une des chansons les plus diffusées par les radios italiennes lors de l'été 91. En 1994, il arrive deuxième au festival de Sanremo pour une chanson qui s'intitule « Signor Tenente » et qui lui vaudra également le prix de la critique. En 2002, il publie son premier thriller qui rencontrera immédiatement un énorme succès, « Io uccido »,« Je tue » en français, plusieurs millions d'exemplaires vendus. En 2004, son deuxième roman rencontre le même succès, il s'agit de « Droit dans les yeux », et puis donc, « Seuls les innocents n'ont pas d'alibi », son cinquième roman. Alors, c'est l'histoire d'un proxénète qui propose de jeunes et jolies jeunes femmes à des hommes riches souhaitant s'offrir un peu de bon temps dans le plus grand secret, cela va sans dire. Le personnage est plutôt sympathique. L'auteur n'utilise d'ailleurs jamais, lorsqu'il parle de lui, le mot « proxénète ». Disons que cette criminalité semble relever d'un accord tacite entre deux parties, celui qui se désigne comme un vendeur de femmes et les intéressés qui veulent s'enrichir rapidement et sans trop d'efforts. Mais assez vite, un drame se produit, et du coup, on découvre à quel point toute une société peut se révéler gangrenée par un système où tout le monde tire les marrons du feu, les criminels, ceux qui les soutiennent dans la sphère politique, ceux qui se contentent de fermer les yeux. Giorgio Faletti se situe bien au-delà de la simple dénonciation de pratiques individuelles répréhensibles, certes, mais qui ne dérangent pas l'ordre établi, jusqu'au jour où... L'intérêt du livre, me semble-t-il, au-delà de cette aventure personnelle d'un pourvoyeur d'escort girl, c'est qu'au fur et à mesure que son intrigue progresse, il dévoile les intrications souvent étroites entre le monde du crime, certains policiers, certains hommes politiques. Portrait jamais caricatural dont il ressort avec force que dans la société, il y a des gens qui ne font pas d'efforts pour résister aux sirènes de la fortune et du pouvoir. Rien de plus facile que de devenir criminel dans une grande ville comme Milan, où ceux qui vivent la nuit semblent s'enrichir aisément. Laissons parler l'auteur. Une jeunesse dans la rue, en mauvaise compagnie, craques et petits larcins, le passage à la cambriole et enfin les braquages, avec de temps à autre un peu de bicrave de coke, histoire de se renflouer dans les périodes de disette. Sa femme l'a quitté quand elle a admis qu'il ne changerait jamais et appris qu'elle était enceinte. Carmine est rentrée chez lui et a trouvé la maison déserte, les armoires vides et la maigre réserve de thunes pillées. Avec le temps arrive le terrorisme, le temps de ceux qui se croient investis d'une mission et n'hésitent pas à tuer, sous couvert d'un combat politique, les brigades rouges, qui ne cessent d'interpeller le pays. Je ne crois pas que tu puisses comprendre ce qui se passe dans ce pays. Tu appartiens à la catégorie des absents, ceux qui sont capables de traverser un camp de concentration sans remarquer ce qu'on y fait pour aller prendre l'apéritif dans un bar chic. Pendant que vous dormiez la journée et que vous imaginiez vivre la nuit, le monde a changé et vous ne vous en êtes pas aperçu. 1968, la lutte des classes. 1977, la lutte armée. Des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Pire, des choses que vous ignorez. Vous n'êtes qu'un peu de fumée, cet espace vide entre le bien et le mal. En parallèle, les hommes politiques, tous n'acceptent pas le compromis avec le pire, mais l'un d'entre eux explique que c'est chose très aisée que de se retrouver sur une pente glissante. Quand je suis entré en politique, les choses me paraissaient claires. Il y avait un point de départ et une ligne d'arrivée vers laquelle j'allais marcher droit, sans hésiter ni faire de concessions. J'avais 1000 programmes en tête, 1 million d'idées, des projets d'envergure de ceux qui influent sur le cours de l'histoire et changent la vie des gens. Et puis tu te retrouves face à une première difficulté que tu ne peux surmonter qu'en cédant un petit peu de toi-même. Ça n'est qu'un compromis minuscule. On se dit que c'est pour la bonne cause, que ce petit détour servira à atteindre un but plus significatif dans l'intérêt commun. Mais un compromis est un compromis. Il n'y en a pas de grand et de petit. Il y a seulement le premier qu'on accepte en se racontant qu'il sera le dernier. Jusqu'à ce qu'on cesse de les compter, on dit que le pouvoir corrompt. Ça n'est pas vrai. C'est la peur de le perdre qui pourrit tout. Difficile d'y renoncer quand ceux qui t'ont aidé à y parvenir ne sont pas disposés à renoncer à toi. Bien évidemment, la ville Milan tient une grande place dans ce livre. On s'y déplace beaucoup, la nuit de préférence. Cela permet de voir tous ceux avec qui on a fait des affaires et les autres. Et l'on connaît tous les lieux publics, privés, clandestins, les hôtels de luxe, les restaurants prestigieux, les établissements malfamés, les hangars désaffectés transformés pour une nuit en salle de jeu. Parfois, l'on se gare dans un quartier moins connu. La Giulietta de Stefano Milla est garée du côté droit de la chaussée, au bout de la Via Carbonia. Alentour, un quartier populaire de Milan profite du crépuscule de ce dimanche de printemps. Le samedi n'est plus qu'un souvenir, et le lundi, une perspective déprimante. Restent ces quelques heures, un match de foot, un film, une pizza, une partie de flipper, un groupe dans un bar ou une discothèque, un homme, une femme, le siège arrière d'une voiture, un lit, une branlette dans l'obscurité d'un cinéma, des patins maladroits d'adolescents, un pétard, une ligne de coke, un shoot, un godet de mauvais pinard, un coca, un verre d'eau minérale avec une rondelle de citron, à chacun son remède pour supporter d'être ou de ne pas être. Parfois l'on pousse un peu plus loin du côté de Lina, Teop et Rattrezzano. Ma petite bagnole bleue roule aussi vite que possible vers San Donato Milanese, une agglomération devenue une ville, il y a 2 ans. Ville satellite avec tout ce qu'implique cette appellation. Un endroit bizarre, le royaume incontesté de la société pétrolière Eni qui fait bosser une bonne partie de ses habitants. Une moitié de bureaux et d'usines, l'autre de dortoirs munis de tous les équipements nécessaires. L'exemple typique du zèle lombard, un truc qui me dépasse. Voilà, quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller voir les autres.
Alors, on a l'impression d'être dans l'actualité.
Ouais. Ouais, tout à fait, absolument.
Et tu peux rappeler donc le titre
Giorgio Faletti, Seuls les innocents, non pas d'alibi, pardon. Ça vient de sortir aux éditions, Robert Laffont.
Robert Laffont, ouais. Robert, donc on le trouve en traduction. D'ailleurs, la traductrice, dans les extraits que tu as lus,
à mon avis,
a dû...
elle a travaillé.
Parce qu'il y a
du langage argotique, il y a du verlan.
Il y a beaucoup de verlan.
Oui, tout à fait.
Faletti, qui avait écrit aussi des chansons pour Angelo Branduardi et puis pour Mina, qui était une grande chanteuse
italienne. Ah, je ne savais pas.
Dans les années 80, l'époque de Sandro et moi.
Oui, d'accord.
Les années 97-98, sans l'un, c'était un peu avant quand il avait eu le prix. Bon, mais merci Dominique.
Oui, tout à fait.
Qui a toujours d'excellents conseils au niveau bouquin. Voilà, alors on va vous parler maintenant de 2 manifestations que l'on organise en corrélation, là aussi, Inis. Donc, la première, c'est une conférence qui aura lieu le samedi 26 mai. À l'île d'Abo, au Millennium, pour ceux qui connaissent, dans le centre culturel de l'île d'Abo, dans le centre de la commune. Et il y aura une journée dans le cadre des Jardins du Millennium, une journée sur l'art contemporain. Et on va participer à cette journée par une conférence de Cécile Fromont sur l'art et la nature dans la création contemporaine. Et donc, dans les années 60, les artistes européens placent leur réflexion sur l'interaction entre l'homme et la nature. Et en Italie, à cette époque-là, l'Arte Povera naît à Turin et à Rome, et puis il apparaît sur la scène internationale. C'est un art qui est entré en guérilla contre la société de consommation qui triomphait déjà dans les années 60. Et deux artistes italiens avaient choisi de réaliser des œuvres à partir de matériaux bruts. C'est pour ça qu'on dit povera. C'est-à-dire la terre, le sable, les bois, les objets de récupération, privilégiant le geste. Voilà. Autour de l'arte povera, il y a eu en 2012 une grosse rétrospective en Italie autour donc, de Germano Celan, qui est un des artistes qui a mis en lumière cet art. Et ce mouvement donc, est né au XXe siècle. Donc on fait l'intervention est de Cécile Fromont, qui est diplômée en histoire de l'art et en développement culturel. Et qui, depuis 15 ans, travaille notamment sur l'art contemporain. Elle fait aussi des projets artistiques. Elle habite dans la région de Chalon, mais elle se déplace donc pour cette conférence au Millénium le samedi 26 mai. Et puis, donc, on a le retour de Libera le 6 juin, donc cette fameuse statue, et autour de son retour à la salle du Conseil général, enfin à la maison du Conseil général rue Frédéric Tard à Bourgoin-Jallieu, nous aurons à 19h un apéritif autour de cette statue, donc les artistes la présenteront, et à 20h15, nous aurons un concert de Gualtiero Bertelli, qui est un auteur, compositeur, interprète vénitien, qui a beaucoup écrit, qui est né en 44, qui a beaucoup écrit sur la Venise de son enfance, cette Venise de lutte, de caractère social, puis de pollution, puisqu'il y avait les grandes usines de Marghera, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'immigration italienne, notamment l'immigration italienne en Amérique du Sud, qui a d'ailleurs une anthologie très très intéressante, j'espère qu'il l'amènera le soir du spectacle. Et Gualtiero, franchement, allez-y, c'est un grand chanteur, il viendra avec un musicien, il a un coffre extraordinaire et puis une sensibilité impressionnante. Donc le retour de Libera et Gualtiero Bertelli le samedi 6 juin à la maison du Conseil général, donc programmé par Enis avec le soutien du Conseil général et de la mairie de Bourgoin-Jallieu. On va l'attendre, Gualtiero, dans Mi Vorrei Saper, qui est une de ses chansons qu'il a composé il y a déjà quelques années, et qui parle, vous savez qu'il y a les hautes eaux à Venise, et quand le Scirocco arrive, il annonce ces hautes eaux, donc les gens partaient avec leur barque et se dirigeaient vers la ville de Marghera, la ville des chantiers, là où il y a les chantiers, où il y avait les constructions des bateaux, chantiers navals donc, et il explique tout ça, je voudrais bien savoir pourquoi l'air est si clair et les gens si frileux quand vient le Scirocco, et la mer devient grosse sous ce grand ciel de plomb, elle emporte au loin un soleil pâle, et là, tous ces gens vont sans se regarder, le temps, ils prennent leurs affaires et remplissent une barque, et ils débarquent plus loin, là où l'air est plus sombre, mais ils sentent sûr, l'eau n'y arrive pas. Et ils parlent après de la fumée, de ces usines, etc. Mi vorrei saper de Gualtiero Bertelli.
Mi vorrei saper perché st'aria se c'era e sta gente sbasia che spetta il sirocco, sto mar grosso che va sotto un cielo di piombo e che porta onta un sol povero e stanco. Sta gente va, no guarda il tempo, c'ha pado strasse che impegnisse un burcio e a sbarca più in là, dove l'aria se scura, ma l'acqua non arriva e a se sente sicura, sicura di non morir, con gli ossi bagnai, un carbon duro e nero, come una tomba ti piansi a Totera. Casanova non basta, ti rimpiansi do muri in cima a un canal.
On va finir cette émission avec Gualtiero. Vous l'avez remarqué, il chante en vénitien, il chante aussi en italien, mais très souvent en vénitien. Et pour la recette, on vous la donnera une autre fois. Je pensais vous donner une recette de la glace aux noisettes, une des spécialités du Piémont. Mais vous pouvez téléphoner à Inis 04 74 93 41 28, puis on la mettra aussi sur notre site. Voilà. Merci Liliane, merci Dominique. Et on finit avec Gualtiero Bertelli, qui viendra le 6 juin à la maison du Conseil Général à Bourgoin-Jallieu.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Amara sui fioi, copar la marghera, tasi disperai, ti tasi ogni giorno e ti pensi che mai ti dovevi assar, e il tuo campo e a tua casa morir forse negai, noce nostra condanna, ma senza respirar, o brusai da una fiamma, poti conti che in fondo 130 se tanto, 130 mila al mese, paga tutte spese, viver poco te basta, casar fora è a miseria, se lo basta se spera de poterse salvar. E ti te senti mal, sarà tra do foghi, con l'acqua che cresce, col fumo che tira, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il parone destina, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il parone destina, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il paron ne destina.